93.9, 93.9, 93.9, 93.9, 93.9.
Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Pour ma part, je n'ai jamais pu vivre, ni écrire, ni parler sous le régime de la censure. En conséquence, je viens de prendre la décision suivante. Je ne saurais prendre part à un débat qui commence sous le régime de la censure, quelle qu'en soit la victime. Qu'il soit bien entendu que je ne me dérobe pas à une confrontation entre nous. Je vous propose de la reprendre sur n'importe quelle chaîne de radio libre. Messieurs les censeurs, bonsoir.
Et c'est donc la première partie de cette auberge espagnole en ce mardi 27 septembre où nous recevons Claude Neuschwander. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous publiez Une vie de militance, une autobiographie chez Yves Michel. Peut-être avant d'entamer les différents aspects de ce livre et les différentes questions que Yves-Marie Le Bozec et moi-même avons préparées, qu'est-ce qui vous a, outre le fait que vous ayez fêté vos 77 ans en 2010, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à écrire ce texte ?
Mes amis, des amis de longue date qui ont partagé un certain nombre de militances... et qui ont eu le raisonnement suivant, la crise est là, il faut que des gens se dressent pour ne pas accepter ce qui se passe, c'est-à-dire la loi de l'argent. Et donc, comme tu as fait beaucoup d'épisodes militants dans ta vie, c'est vrai, ça n'a jamais arrêté, tu devrais le raconter et puis en tirer les conséquences sur l'analyse que tu fais de la crise d'aujourd'hui.
D'où vous êtes un enfant de Stéphane Hessel, alors ? Vous vous indignez ?
Ah, Stéphane Hessel, pas un enfant, c'est...
Vous êtes un gamin, par rapport à lui. Quoi.
Il a 93 ans, je crois, j'en ai 78. Ça fait une quinzaine d'années, c'est une demi-génération. Mais on a passé 5 ans ensemble au comité directeur du club Jean Moulin, à un moment où la guerre d'Algérie faisait rage et où se battre contre la guerre d'Algérie était difficile et ingrat, mais nécessaire.
Alors il y a une partie qui raconte votre vie, votre enfance, évidemment, comme il se lance dans une autobiographie, où j'ai noté plusieurs choses. D'une part, le rapport à la musique que vous avez, quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous n'avez pas assez eu le temps de pratiquer. Est-ce que vous comptez vous consacrer à l'instrument maintenant que vous avez peut-être plus de temps ?
J'ai pas plus de temps. Je continue à travailler comme avant. Mais la musique, j'en fais tous les jours.
Et de quel instrument jouiez-vous ? J'espère que ce n'était pas du pipeau.
Je joue du... non, je joue du piano et de l'orgue.
Debout ou assis ?
Assis. Assis. Confortablement et classique.
C'était facile. Bon.
Classique.
Et puis il y a des choses plus graves, notamment le lien entre la perte que vous avez connue enfant et puis la foi et l'engagement.
Oui, je raconte dans ce livre que je suis entré à la GEC, dans l'Action catholique de la jeunesse française, de la jeunesse chrétienne, à l'âge de probablement 16 ou 17 ans, et que ça a beaucoup changé ma vie. Ça a changé ma vie et ça m'a amené à prendre l'engagement d'être militant toute ma vie. Engagement que pour l'instant j'ai tenu et que je pense je continuerai à tenir, tout en disant que même si c'est ma foi chrétienne qui m'a amené à être militant, je suis un militant homme parmi les hommes et donc un militant laïque. Je ne porte pas ma foi en étendard. Je pratique ma religion, mais je fonctionne dans les associations ou les charges que j'ai eues comme militant en parfait laïc.
Mais que vous ayez été militant dès 16-17 ans, je veux dire avant d'avoir fait Centrale, oui. Ça peut se comprendre. Mais par contre, une fois que vous avez fait Centrale, qui est quand même une école scientifique par excellence, comment peut-on prétendre être scientifique et encore avoir la foi ?
Oh, écoutez,
au minimum, vous devriez être agnostique, au minimum.
Eh oui, mais enfin ça c'est une vision très primaire, pardonnez-moi, de la religion. Je veux bien avoir un débat sur la religion, je ne suis pas sûr que ce soit l'objet de cette, cette réunion, et je vous expliquerai que c'est un choix parfaitement rationnel. Je dis même dans, le, dans mon livre, c'est un choix d'ingénieur tout à fait rationnel que d'avoir la foi. Et puis c'est en plus quelque chose de très privé, de tellement privé que, c'est, si j'ose dire, c'est mon problème. Mais je ne pourrais pas m'en passer. Mmh. J'ai d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'écris ce livre, c'est que un jour, en sortant d'une réunion de section, une vieille amie qui était une camarade entre guillemets m'a dit: mais comment toi, un ingénieur, tu peux avoir la foi et pratiquer? Ce livre est une sorte de réponse.
Mmh. Oui, puis les exemples ne manquent pas de scientifiques de haut vol qui revendiquent aussi la foi religieuse. Pour illustrer cette double identité, parmi la presse dont vous racontez un petit peu les débuts de beaucoup de magazines qui sont, on va dire, des références aujourd'hui, vous dites que finalement, dans vos lectures, il y a Témoignages chrétiens et Le Canard enchaîné, auquel vous êtes resté fidèle toute votre vie.
Ah, que je lis tous les mercredis avec un grand soin, une grande attention et une immense rigolade.
La Croix, par contre, non.
Je la lis de temps en temps. Non, c'est comme ça. C'est pas un choix politique ni théorique. J'aime beaucoup les gens du groupe Bayard, mais je ne suis pas abonné. Vous savez, on ne peut pas être abonné à tout. Il faut lire Le Monde tous les matins, c'est déjà 1h15. Donc il faut faire...
Il faut faire des choix.
Cela étant, j'ai été pigiste quand je terminais mes études à Centrale. J'ai été pigiste à France Observateur et à l'Express pour gagner ma vie.
Alors vous racontez aussi votre implication à l'UNEF et puis par rapport à cette question de l'éducation qui est centrale aujourd'hui dans les débats qui agitent nos démocraties, vous dites quand même qu'il y a encore du pain sur la planche pour réduire ce gâchis et instaurer une démocratisation réelle et utile de l'enseignement. C'est un débat qui a lieu depuis assez longtemps, surtout en France, mais on n'a pas l'impression que les choses avancent aussi
non.
vite qu'elles le devraient.
Non. Pourtant, on prétend en haut lieu, mais on a tellement prétendu que c'est une priorité. Mais en fait, j'en suis pas sûr. Mm-hmm. Je ne suis pas sûr que l'on mette les moyens. Je ne suis pas sûr que l'on donne à l'enseignement scientifique l'orientation qu'il mérite pour donner à l'économie de la France le caractère d'une économie du savoir et de la technologie. Et je ne suis surtout pas sûr que l'on soit prêt de réduire cette compétition que l'on a dans nos écoles. L'important, c'est que tout le monde s'en sorte et non pas que les meilleurs soient encore plus performants. Je pense qu'il y a là un vrai gâchis. Quand j'étais patron d'entreprise, je disais toujours que je pense que chacun, quel que soit son poste, même s'il est au plus bas de la hiérarchie, peut contribuer à sa manière à la réflexion sur ce qui se fait dans l'entreprise. Et cela, je le maintiens après 50 ans de métier.
C'est votre côté presque gaulliste, l'association du capital et du travail.
Oh, je ne me sens pas vraiment gaulliste. Et ce n'est pas une idée qui est née avec lui. Vous avez eu bien des socialistes français, les socialistes français, je pense à Proudhon, qui ont eu sur ce thème des idées tout à fait précises et que l'on a bien le tort d'avoir oublié aujourd'hui.
Et à propos de l'école, si on déborde un tout petit peu, en 2007, vous avez soutenu, je vais dire officiellement, Ségolène Royal. Aujourd'hui, François Hollande, justement, fait des déclarations à propos de la jeunesse, de l'école, donc il va un petit peu dans votre sens. Au niveau des primaires, est-ce que vous allez voter pour les primaires? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes encore ségoléniste? Est-ce que vous croyez encore dans la Jeanne d'Arc socialiste? Ou est-ce que vous êtes devenu hollandais et donc peut-être plus pragmatique?
Écoutez, je vais vous dire clairement ma position. Premièrement, j'étais ségoléniste parce que Ségolène avait été choisie par les militants du parti et que c'est une question de discipline. Et que je regrette infiniment que deux de ses concurrents de l'époque, Fabius et DSK ayant eu depuis quelques autres ennuis, aient pris position aussi vertement contre elle et ne l'aient pas soutenue. On aurait peut-être évité la parenthèse Sarkozy qui coûte cher à la France. Aujourd'hui, je suis encore en train d'écouter je n'appartiens à aucun courant, à aucun clan, et je prendrai position dans quelques jours. Et si vous me demandez pour qui je vote, je pourrais vous le dire dans quelques jours, mais aujourd'hui encore...
C'est pas encore fermement décidé.
Parce que je trouve qu'il y a une excellente équipe de candidats et qu'il y a de quoi hésiter. Et ça me paraît plutôt très positif.
Alors peut-être pour revenir à cette question de l'éducation, est-ce qu'on peut résumer ça, puisqu'on a quand même le sentiment de plus en plus, et puis les problèmes liés à la crise et aux problèmes de dette, etc., ne font qu'amplifier cette impression en tout cas. Est-ce qu'on peut réduire ça en se disant qu'on vit dans une espèce de totalitarisme du marché financier où les États ont perdu et du pouvoir et de la légitimité, et que finalement c'est plus efficace dans ce contexte-là d'avoir une population peu éduquée pour maintenir un totalitarisme? Est-ce qu'on peut réduire à cette vision négative la réalité qui nous entoure?
Non, écoutez, je crois qu'il faut bien séparer les problématiques. Vous avez la problématique de l'enseignement qui est très importante, qui est une problématique presque hexagonale. On pourrait imaginer d'avoir à cet égard une politique européenne, mais fondamentalement, l'enseignement est une politique nationale. Je me souviens d'avoir participé au nom de l'UNEF, il y a donc très longtemps, à un mouvement national pour le développement scientifique autour de Lichnerowitz, de Zamansky, et d'avoir admiré, j'étais à l'époque centralien, donc très porté sur les mathématiques, d'avoir admiré la manière dont il théorisait l'abstraction mathématique. Je dois dire qu'aujourd'hui, ayant eu 6 enfants, ayant eu à les suivre dans leurs études, je trouve que l'abstraction va trop loin. Et que la plupart des parents doivent avoir beaucoup de mal à suivre les concepts qu'on leur indique. Le deuxième problème que vous posez, celui de la culture financière, me paraît un drame absolu. Drame récent, il remonte aux années 80. La fin de l'IP a coïncidé avec le début de ce libéralisme de l'absolu qui étrangle les hommes et les territoires dans notre pays, dans l'Europe et probablement dans l'ensemble de la mondialisation. L'argent est devenu le maître, l'argent est devenu le nec plus ultra, le deus ex machina, si je peux employer ces mots latins de la société. Plus rien ne compte que l'argent. Et les hommes en face de ça, on les fait disparaître. On les étrangle, on les met sur le côté, on les méprise, on les ignore. Il y a des dominants et des dominés. Et les dominants, ils sont peu nombreux. Je dirais peut-être un petit million à l'échelon de la planète. Mais ils dominent 7 milliards d'hommes. Et j'aimerais que ces hommes se dressent pour dire assez. Nous ne voulons plus être dominés et conduits comme des bêtes à l'abattoir parce qu'ils veulent gagner plus d'argent et qu'ils se foutent que l'on n'ait même pas de quoi vivre.
Du 17 au 20 octobre va se tenir à Montréal le Forum international de l'économie solidaire et sociale. Quel moyen pour une économie solidaire et sociale aujourd'hui?
Écoutez, il y a une économie solidaire qui fonctionne en France depuis bien longtemps, autour des mutuelles, autour des coopératives, autour des SCOP, la famille la plus petite, mais la plus intéressante sans doute en termes d'emploi. Ce sont des structures de qualité. J'ai travaillé avec la CANA comme consultant. La CANA est une coopérative de l'Ouest considérable, créée par 7 paysans en 1930, avec une foi extraordinaire et une volonté d'échapper aux négociants. Et des militants, on en trouve. J'assistais l'autre jour à Montpellier à la première du film « Tous au Larzac », qui raconte la lutte de 103 paysans contre le ministère des Finances, des Armées, et qui ont gagné finalement. Pendant 10 ans, ils ont tenu contre vents et marées. Les LIP ont tenu pendant quelques années aussi, et ont réussi jusqu'à ce que l'on décide, en haut lieu, Jacques Chirac et M. Sérac, président du patronat français, qu'il fallait tuer l'entreprise LIP, assassinée, a dit M. Charbonnel, l'ancien ministre de l'Industrie. Des militants, il y en a. Il faut que ces militants se dressent, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils comprennent qu'à condition d'être ensemble, d'être unis, d'avoir de l'imagination, d'avoir une vie démocratique, ce qui n'est pas le cas de toutes les structures qui ont des militants. Je pense en particulier aux partis politiques. On a un certain mépris pour les distributeurs de tracts, alors qu'il faudrait les associer à la réflexion. Eh bien, il y a là une réserve de potentiel pour lutter contre la puissance financière, d'autant que ces puissances financières montrent une telle ignorance des phénomènes économiques. Ils se cassent la figure tellement souvent dans leurs prédictions. Ils disaient « Laissez-nous faire, nous savons, donnez-nous la liberté, nous ne voulons plus être contraints par les règles syndicales ou par les réglementations d'État. Rendez-nous libres, vous allez voir, on va apporter la fortune. » Ils ont apporté la misère, ils ont apporté la ruine, ils ont apporté l'étranglement des hommes et des territoires.
Ah justement, en termes de ruine... Et notamment des classes moyennes. Et au niveau répartition des richesses, qui est quand même un thème cher à la gauche en général, et au Parti Socialiste en particulier, moi je suis étonné que depuis 2007, on ne parle plus en France, ni à droite ni à gauche, de TVA sociale. Est-ce que ça, ce ne serait pas, si ce n'est la seule solution, une solution que les Allemands pratiquent d'ailleurs depuis déjà plusieurs années, et dont on peut imaginer que si l'Allemagne s'en sort peut-être mieux que la France, la TVA sociale n'y serait pas pour rien. Quelle est votre position par rapport à ça ?
Je trouve que la TVA sociale est une solution parfaitement acceptable. Mais je dirais que ce n'est pas la solution stratégique pour quitter l'univers de l'argent roi, pour quitter l'univers du veau d'or.
Non,
il faut là-dessus aller plus fort. Dans le livre, je propose un certain nombre de choses en termes de taxes sur les dividendes trop considérables. Pensez à ce que les banques,
la taxe Tobin,
un an après, ça c'est autre chose, c'est sur les transactions financières. Oui. Pensez que les banques, après un an, ont distribué les dividendes et les bonus, alors qu'aujourd'hui on nous dit qu'elles sont sous-capitalisées. Je veux dire, ou bien les dirigeants sont foireux, ou bien c'est une quasi-escroquerie que l'on a vue vis-à-vis de l'État. Dans le livre, je dis que les spéculateurs qui ont entraîné par leurs manœuvres et leurs opérations de la misère, de la ruine dans des pays entiers. Il y a eu 24 crises depuis 1980. Vous entendez, 24 crises, je peux vous les énumérer. Je dis qu'ils devraient être traduits pour crimes contre l'humanité devant un tribunal international, devant la Cour internationale de justice. C'est le moyen de les amener à réfléchir que s'il y en a quelques-uns d'entre eux qui se payent 20 ans de tôle avant de ressortir, je pense que les autres vont commencer à considérer qu'ils ont effectivement se sont conduits comme des criminels.
Et donc tout ça passe notamment, je suppose, par une réforme de la fiscalité.
Bien entendu.
Est-ce qu'il ne serait pas l'heure, justement, d'oser supprimer la totalité, je dis bien la totalité des niches fiscales, la totalité,
oui,
quitte à en rétablir après,
mais en
quelques-unes, en positif, il y a quand même 175 milliards d'euros en jeu par an sur cette affaire-là. Est-ce que ça, ce ne serait pas quelque chose dont on pourrait presque exiger du candidat socialiste que ça fasse partie de son programme ?
C'est exiger du candidat socialiste.
En tant que militant, en tant que...
Dans le livre que vous avez entre les mains et que vous m'amenez à commenter, je vous en remercie, je demande que l'ensemble des niches fiscales soient supprimées, que l'on rétablisse les impôts sur les gros revenus, aussi bien le patrimoine que les revenus, de telle sorte que ce ne soit pas sur les seules classes moyennes que repose l'effort. Aujourd'hui, les sociétés du CAC 40 payent moins d'impôts que les PME ou les artisans du coin. C'est quand même un déni de justice insupportable, en même temps que cela explique que la France soit dans une situation de dette aussi catastrophique. Et ne vous trompez pas sur l'importance qu'a ce problème. La Grèce ne souffre que d'une chose fondamentale, le fait qu'il n'y a pas de recettes dans l'État. Les armateurs richissimes de Grèce n'ont jamais payé un centime d'impôt.
Ni l'Église orthodoxe.
Ni l'Église orthodoxe. Je trouve qu'elle devrait, par réflexion, par respect pour l'Évangile, demander à payer leur impôt. C'est la moindre des choses.
Ah oui, mais ça, c'est pas possible, parce que Rerum Novarum, ils peuvent pas le lire, ça. C'est un truc catho, c'est pas un truc orthodoxe.
Oui, bon, écoutez, les orthodoxes sont tellement proches de l'Église catholique qu'ils finiront bien un jour par la rejoindre. Ils finiront un jour par se rejoindre. C'est pas une qui rejoindra l'autre, c'est les deux qui finiront par être sages.
Bon, vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous étiez vraiment européo-centriste.
Mais justement, face à cet état de fait, vous soulignez le fait que ces procédés financiers se sont banalisés. Vous le disiez vous-même, 24 crises, ça a tendance justement à rendre, on va dire, où les gens se résignent quelque part à la peur de perdre leur pouvoir d'achat.
Ils se sont banalisés, ils se sont complexifiés, ils se sont criminalisés. Ils se sont banalisés parce que maintenant, le moindre établissement financier, il s'en crée plein. C'est ce qu'on appelle la finance de l'ombre, problème dont on ne parle pas beaucoup dans la presse. C'est-à-dire toutes les transactions qui se font dans le noir et qui ne sont enregistrées nulle part. J'ai de jeunes camarades de centrale qui sont payés à des niveaux invraisemblables pour élaborer des programmes pour produire des produits financiers extrêmement complexes, ce qui fait que les banques qui en ont acheté parce qu'elles pensaient que c'était sérieux, les agences de notation, les célèbres agences de notation, leur donnaient 3A alors que c'était des pourritures sur pied. Donc, il faut bien voir que nous sommes là dans un processus dramatique. Elles se sont criminalisées parce qu'elles ont des conséquences effroyables. Regardez aujourd'hui les collectivités qui ont acheté du crédit spécial. Ces crédits à partir de spéculations sur des monnaies, sur des indices, je ne sais pas quoi. Et vous avez des communes, des régions, des départements qui se trouvent avec des taux d'intérêt qui sont à 15% par application des règles de l'emprunt.
Alors, manifestement, il y a un nécessaire changement de mentalité, ça revient plusieurs fois dans votre livre, à réaliser. Est-ce que vous pensez que la rapidité avec laquelle, grâce à Internet, la mise en réseau, finalement, des personnes, des opinions, des consciences, peut, on va dire, être un accélérateur d'un progrès social ?
Je le crois, mais pas tout à fait comme ça. Moi, j'ai constaté l'existence de militants de qualité, mais qui ne sont pas dans les structures habituelles. Les militants de l'IP, ils étaient à la CFDT, mais ils étaient considérés comme marginaux par les dirigeants de la CFDT. Les gens du Larzac ont été lâchés par les dirigeants agricoles. Je pense que ces gens qui sont sur le terrain, au plus près des pauvres, des miséreux et des précaires, ont avec eux une relation forte, mais qu'ils ne sont faibles que d'une chose, c'est qu'ils sont isolés. Les paysans du Larzac, ils avaient des soutiens, mais des soutiens qui étaient individuels. Il faut, et je rêve, de trouver un système Internet qui permette à ces militants, qui sont au contact de la réalité des hommes, de travailler ensemble, de savoir ce qu'ils font, de discuter de ce qu'ils devraient faire, et au fond, de se réunir en un groupement informel, certes, mais ayant des idées et pouvant éventuellement les transférer aux politiques qui, parfois, vous venez de le dire, cher monsieur, ils vous en laissent la responsabilité, manquent quelque peu des idées nécessaires.
Bon. Et vous voyez, ça sert quand même toujours de discuter et de bavarder, parce que si vous ne savez pas encore pour quel candidat aux primaires vous allez voter, si j'en suis votre discours, moi j'ai trouvé la solution, je vous dis pour qui vous devez voter par rapport à votre livre. C'est pour Arnaud Montebourg. C'est pour Montebourg.
Vous n'avez pas encore gagné, et je ne suis pas du tout sûr de voter pour Arnaud Montebourg, encore que je considère...
Pourtant c'est lui qui défend le plus vos
idées.
Oui,
tout à fait. Vous avez raison, mais j'ai envie de voter pour celui qui sera le mieux à même de battre M. Sarkozy, parce que je trouve que pour la France, il est temps qu'il quitte l'Élysée.
Voilà, le message a bien été entendu. Justement, mais quand on pense par exemple à la mobilisation qui a eu lieu autour de l'exploration sur les gaz de schiste, etc., dans la région notamment, grâce à Internet, les gens collaborent et travaillent ensemble à travers leur site quand ils ont les moyens d'en développer un eux-mêmes, ou à travers les réseaux sociaux, comme on l'a vu dans le nord de l'Afrique au printemps. Et dans un contexte mondial où, vous le soulignez, il y a 5000 milliards d'échanges par jour, soit deux fois les réserves qu'on a. Donc, c'est-à-dire qu'on a un petit peu ouvert la boîte de Pandore. On arrive à faire de l'argent à partir de rien.
Sans
rien produire.
Alors qu'il y a 30 ans, il y avait autant, quand des marchandises partaient d'un côté, il revenait de l'argent de l'autre. C'est pour ça qu'il était absolument indispensable que dans le maximum de pays, si possible toute l'Europe, sinon la zone euro, il y ait une taxe sur les transactions financières. Même si vous mettiez 0,1%, pas 0,01, mais 0,1% sur ces taxes, ça rapporterait déjà à l'Europe des sommes considérables. Et en plus, ça pèserait sur la rentabilité de transactions qui sont faites dans l'instant et qui ne durent que quelques minutes parfois. Mmh.
Mais il y a quand même, alors il y a beaucoup d'espoir dans ces idées de le fait, par exemple, qu'on a quand même le sentiment que les sociétés civiles de par le monde se mondialisent plus vite et dans un meilleur sens que ne le font le million d'individus dont vous disiez qui contrôlaient les 7 milliards d'autres. Mais en même temps, je pense à l'exemple autour de Google que vous citez. Google est issu, on va dire, de gens qui ont l'intelligence d'utiliser du logiciel libre pour monter leur projet, leur plateforme. Mais on voit bien aujourd'hui qu'ils sont contaminés en quelque sorte par la logique du brevet et de la propriété intellectuelle, même s'il faut le mettre entre guillemets. On se demande si les bonnes initiatives ne vont pas être immanquablement contaminées par la logique qui précédait et qui est, on va dire, privatrice, accaparatrice.
Vous avez raison, mais je vais prendre là-dessus trois exemples pour finir. Le premier, je trouve que la révolution des pays arabes est formidable. C'est la démocratie qui rentre. Et ça, c'est vraiment un espoir. Sauf que on voit qu'ils ont du mal à digérer leur victoire. Comme souvent, les peuples ont du mal à digérer leur victoire et que donc il faut apprendre à construire après avoir résisté. C'est mon premier point. Le deuxième point, c'est qu'en même temps que la démocratie prend racine dans ces pays arabes, on s'aperçoit que chez nous, elle disparaît. Ce n'est plus qu'elle se limite aux élections, alors qu'elle devrait être présente dans tous les actes de la vie. La démocratie, c'est fondamental. Comment peut-on rétablir la démocratie? Et puis le troisième point, c'est que, et il est lié à ce problème de la démocratie, c'est la recentralisation de notre pays. On voit que tout le pouvoir se concentre sur un homme en un lieu, à l'Élysée, ce qui est inadmissible. C'est aux régions, aux agglomérations, aux territoires, à prendre un certain nombre de décisions. Faire tout remonter vers Paris, c'est condamner les décisions qu'ils prennent à être sans efficacité, sans effet, parce qu'ils veulent que ce soit partout la même chose, dans le même temps, et alors qu'ils ne connaissent pas la réalité des faits. Je voudrais donc qu'en dehors des ministères les plus importants, ceux qui correspondent au pouvoir central, il y a une répartition des ministères entre les régions pour que les décisions se prennent au plus près du peuple et donc au plus près de ses intérêts et de sa qualité de vie.
Claude Neuschwander, on pourrait poursuivre cet entretien assez longtemps, mais la demi-heure impartie touche à sa fin. Je rappelle que Une vie de militance, avec militance au pluriel, avec un S entre crochets, c'est chez Yves Michel. Et puis on aura sans doute l'occasion de vous recevoir à nouveau sur
c'est
Divergence.
C'est aussi à l'ADELS, une association à la fondation de laquelle j'ai contribué il y a 50 ans avec Michel Rocard et qui aujourd'hui continue à travailler pour les maires et les collectivités locales. Je vous remercie.
Merci.
Au revoir.